Le combat a été acharné, et on lit au verset 4, « Lorsqu'il atteignit le Jourdain, Gédéon le traversa avec les 300 hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. » On relit ensemble, « Malgré leur fatigue, ils continuaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient. » Il y a un message de Dieu pour nous ce matin. Peut-être ça fait des années que tu as commencé le combat et tu es fatigué, mais la Bible dit que malgré leur fatigue, ils continuaient. Saint-Esprit, conduis ce message maintenant, que vraiment, par ton autorité, ton onction, tu puisses parler à un cœur en cet instant. Que ça soit une parole fraîche qui vienne de Dieu pour un cœur fatigué qui a besoin d'une pensée qui vienne du ciel. Seigneur, des encouragements humains, c'est bien, mais une parole de Dieu, c'est tellement mieux. On voudrait que ça soit quelque chose qui vienne de Dieu, quelque chose qui vienne renouveler celui qui se sent faible en cette matinée. Sois béni, que cette personne pour qui tu as prévu ce message, ne passe pas à côté, au nom de Jésus, amen. Amen. Moi, je suis déjà enthousiasmé parce que je sais ce que Dieu a prévu de te dire et peut-être si ça te concerne, écoute bien tes oreilles. On est dans le livre de Juges. Mais l'actualité est forte aussi. Moi, j'étais je crois que c'était mardi matin, 11h, devant BFM Télé et ça faisait déjà 29h. Qu'un fou s'était enfermé après avoir massacré, comme vous avez suivi l'actualité, des enfants, des militaires, etc. Et ce fou était enfermé depuis déjà 29 heures. Et moi, j'écoutais, vous savez, ces télés en continu, vous avez du direct là. Et ça faisait déjà au moins 30 minutes qu'il s'expliquait pourquoi il s'était suicidé pendant la nuit. Et pourquoi c'était à peu près sûr que le combat était terminé. Ils expliquaient, voilà, on a entendu deux coups de feu, il n'a plus donné de signe de vie depuis plusieurs heures, toute la nuit, il ne s'est rien passé, le combat est terminé, et certainement, ils sont en train de se préparer à récupérer le corps de cet homme-là. Et au moment où on pensait que tout était fini, après 30 heures et qu'ils sont fatigués, c'est là qu'on en ça tire dans tous les sens. Malgré leur fatigue, ils continuent. Fini le travail. Fini le travail. Enfant de Dieu, combat le bon combat jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Ça sert à rien de commencer un combat que tu finis pas. Et je crois que c'est une des caractéristiques de tous les êtres humains, et particulièrement des enfants de Dieu, c'est que c'est plus facile de commencer un combat que de le finir. C'est plus facile de prendre son baptême un jour et dire « Alléluia, gloire à Dieu !» que d'être fidèle aux réunions. Parce qu'il y a des jeudis soirs, il y a des dimanches matins où tu vas pas avoir envie de te lever, et le combat, faut le finir. Ça sert à rien d'avoir été un héros un jour. Dieu veut que tu combattes le bon combat. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit, j'étais un champion international de Jésus. Il dit, j'ai gardé la foi. Est-ce qu'il y a une génération tenace qui sait s'accrocher sur laquelle Dieu peut compter? Parce que Gédéon, le combat n'est pas fini. Moi, j'aime bien ce pasteur T.D. Jakes qui disait, il faut plus de courage pour construire un couple que pour couper le gâteau de mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut plus de courage pour élever un enfant qu'en est une maman célibataire que pour faire l'amour. Il faut plus de courage pour terminer des études que l'on a commencées que de simplement tester le premier examen. Il faut plus de courage pour rester fidèle avec Dieu, pour continuer à lire sa Bible, pour continuer sa louange. Quand les moments sont faciles comme dans les moments difficiles, il faut plus de courage que de simplement s'enthousiasmer parce qu'il y a un chant qui vous a plu un jour, un dimanche matin. Malgré la fatigue, il continuait. Je crois que les chrétiens, des fois, on a la force pour semer des prières, pour pleurer, mais on brûle toute notre énergie à crier à Dieu. Et le jour où on est sur le point d'obtenir la bénédiction et d'arriver à la fin et de faire la récolte, il n'y a plus personne. Vous êtes simplement tellement fatigué, vous avez dépensé tellement d'énergie dans le début du combat qu'à la fin du combat, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui, après avoir commencé fort avec Dieu, après quelque temps se découragent et ne finissent pas. Mais il aurait mieux fallu presque pas commencer. C'est quand même terrible parce que si ces hommes du raid, heureusement qu'ils étaient préparés quand même. Parce que quand le fou, après 30 heures, est sorti de la baignoire avec tous ses fusils mitrailleurs, s'ils sont pas prêts, ils sont tous morts, les gars. Oui, mais ça faisait 29 heures que j'étais prêt. Mais si t'es pas prêt à la 30e heure, ça sert à rien. Si t'es pas prêt à la 30e heure, ça sert à rien. Oui, mais normalement, personne peut tenir plus de 24 heures. Eh ben si. Il y a certains combats, quand vous êtes en face d'un diable, vous pouvez vous attendre à des coups incroyables après des heures et des heures et des heures. Votre ennemi est comme un lion rugissant. Il attend. Il attend. Il attend que tu te fatigues. Il attend que tu te fatigues. Et c'est le jour où tu prendras des distances avec ta Bible, où tu prendras des distances avec ton église, où tu diras, bon, ben ça, c'est plus essentiel pour moi, c'est plus essentiel de faire cette réunion. Oh, puis finalement, j'ai entendu déjà assez de prédications. Oh, jeudi soir, je suis fatigué, etc. Plus tu vas dire, j'en ai, plus le diable te regarde et se dit, il est fatigué. Et il se prépare. Vous savez ce qui s'est passé avant? Regardez juste le verset 1 du chapitre 8. On a les mêmes frères et sœurs que Gédéon. Et c'est pas forcément un compliment. Éphraïm, c'est les frères. Hein. Vous savez, il y a la tribu de Gédéon, c'est la tribu d'Abiézer, avec Abiézer comme responsable. Puis les hommes d'Éphraïm, c'est une grosse tribu, très solide. Chrétien solide, une bonne église, vous voyez. Et ces hommes et ces femmes qui sont costauds normalement. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi tu agis de cette manière envers nous? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Madianites ?» Et ils le prirent violemment à partie. Gédéon leur répondit, « Mais qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm est plus productif que toute la vendange de la famille d'Abiézer. Et après tout, c'est à vous que Dieu a livré les chefs madianites Oreb et Zeb. Qu'ai-je pu faire en comparaison avec vous ?» Ces paroles apaisèrent leur colère. Vous savez pas, déjà tu es fatigué. Ça fait des heures que tu combats. Et il y a des personnes qui sont censées t'aider et qui vont venir te chercher des ennuis. Les frères, des fois c'est vos amis chrétiens, les personnes de qui vous auriez pu espérer de l'aide. Mais vous voyez, c'est eux qui vont dire « Pourquoi tu nous as pas demandé de l'aide ?» Mais vous saviez pas qu'il y avait une bataille. Vous auriez pas pu vous proposer, les gars. Si en plus je dois faire une campagne de communication en même temps que je gère mon armée, il y a toujours des gens qui vont utiliser leur cerveau pour commenter ce que tu fais. Et c'était incroyable. Le raid n'était pas encore intervenu, qu'il y avait des critiques pourquoi ils n'intervenaient pas. Pendant qu'ils sont intervenus, il y avait des critiques sur comment ils intervenaient. Et après qu'ils sont intervenus, c'est pourquoi ils ont fait ceci, pas ceci, pourquoi ils n'ont pas utilisé ça. Tu as toujours des gens qui vont passer leur temps à commenter. Bon, je suis pas toujours fan, mais là j'ai une bonne phrase de François Fillon, hein, c'est pas spirituel, mais je pense qu'il y a quelque chose de pour les chrétiens quand même. Il y a une grande différence entre ces hommes du raid et ceux qui les critiquent. Les premiers regardent la mort en face, les autres regardent les images. Quand ils ne se regardent pas eux-mêmes. Je crois qu'il y a une grande différence entre les chrétiens qui tiennent le bon combat et ceux qui les regardent. Et peut-être dans ta famille, les gens te critiquent pour ta fidélité et disent « Mais pourquoi tu fais comme ça ?» Et puis t'es trois fonds pour Dieu. Et peut-être c'est ton conjoint qui te dit « Mais je comprends pas pourquoi tu passes du temps en prière, etc. » Les gens vont te critiquer, tes proches, ceux de qui tu pourrais attendre de l'aide, ne seront pas forcément avec toi dans le combat. Prépare-toi ! Vous voulez qu'on voit ensemble trois points pour tenir bon. Je voudrais vous donner, c'est des choses très simples, très concrètes ce matin, pour vous aider à tenir le combat, pour pouvoir finir le combat. La première chose qui permet à Gédéon de tenir jusqu'à la fin, c'est... Beaucoup de chrétiens oublient ça. Pourquoi j'ai commencé le combat ? Quel est mon but dans le combat ? La raison de tout ça. Si tu oublies pourquoi tu as commencé le combat avec Dieu, tu ne tiendras pas le combat. Quel est mon but ? Quel est le combat que tu as ce matin ? Quel est le combat que tu tiens dans ta vie de tous les jours ? Pour certains, c'est peut-être sauver votre mariage. Votre mariage est en danger. Votre conjoint est chrétien et pourtant, les tensions augmentent. Et ton combat, c'est de sauver ton mariage. Ne perds pas de vue le combat. Pour d'autres, votre combat concerne un enfant qui est en train de partir de travers, qui est en train de s'éloigner de Dieu. Votre combat, c'est de tout faire et ne pas faire pour qu'il puisse revenir un jour à Dieu. Ne perdez pas de vue le combat. Pour quelqu'un d'autre, en période de tentation, parce qu'il y a de la pression sur ta vie, c'est simplement tenir bon jusqu'à la fin de cette épreuve. Pour certains, vous êtes éprouvés dans votre santé, vous avez un combat à tenir, c'est garder la foi malgré la maladie. C'est ça le combat de votre vie, c'est tout simplement dire, voilà, je veux garder la foi pendant cette maladie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. T'as besoin d'un but précis. Quand on est chrétien et que on n'a plus de but précis, au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on se bat. Vous savez, si vous n'avez pas un but précis, premièrement, vous ne saurez pas quand vous arrêtez. Parce que il y a des combats qu'on mène, quand on ne sait plus trop pourquoi on les a menés, on les continue de façon automatique, mais ce n'est plus le combat d'origine. Est-ce que il y a des couples ce matin, ils vont comprendre ce que je vais dire. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de commencer une dispute ? À la base, les motifs de la dispute étaient très clairs. Le contentieux était explicite les trois premières minutes. Tu n'as pas fait ça et je m'attendais à ça de ta part. Ou bien, voilà pourquoi je suis en colère. Mais après 10 minutes, après du temps qui passe, vous continuez à critiquer, à parler, à vous disputer. Et vous savez même plus quelle était la cause à l'origine. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Ou bien avec vos parents, avec vous. C'est comme si on trouve notre équilibre dans le déséquilibre. Voyez, le combat un jour prend fin. Faut pas oublier ça de vue, parce que Dieu vous demande pas d'être dans un combat perpétuel. Si vous savez pas exactement pourquoi vous vous battez, vous serez hargneux toute votre vie. Et Gédéon, il y a deux rois et leur armée qu'il doit battre, point à la ligne. Les deux rois ont été arrêtés, l'armée n'a pas été arrêtée, il faut continuer jusqu'à ce que cette armée soit arrêtée. Pourquoi ? Parce que pour Gédéon, c'est une question de survie. Vous voyez, il y a des combats que l'on mène, c'est pas des combats essentiels. Quel est le combat auquel Dieu t'a appelé ? Vous savez, le problème, c'était un risque de dispersion. Suivez-moi ce matin. C'est un piège que ses frères d'Éphraïm lui tendent. Parce qu'ils lui disent, mais pourquoi tu nous as pas appelés? Et pourquoi t'es allé au combat sans nous? Et comment ça se fait que t'as fait comme ci et pas comme ça? Et moi, j'aurais fait comme ça à ta place et j'aurais tenu. Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pourquoi ton fils, tu lui dis pas ça? Et pourquoi dans ton mariage, tu fais pas ceci, cela? Et pourquoi par rapport à cette maladie, tu penses pas ça? Tu vas pas avoir ce... Reste sur le combat. Le combat que tu as à mener, point barre. Ne perds pas ton temps. Tu n'as pas d'énergie à disperser avec des combats secondaires. Vous voyez le problème de Gédéon. S'il commence à parler avec Éphraïm en disant « Oui, mais en fait, vous m'embêtez, puis ceci, puis cela. » Gédéon, il va être sage. Il va dire à Éphraïm « Écoutez les gars, je reconnais vos qualités. » Point barre. Il leur dit « Honnêtement, ma tribu, elle est mini à côté de la vôtre. » En plus, des fois, vous imaginez, il doit perdre du temps à flatter l'ego et les susceptibilités de ces frangins qui n'ont pas fait grand-chose. Mais vous voyez, il se dit, je préfère me faire tout petit pour ne pas perdre de temps à me justifier envers ceux qui me critiquent. Si, enfant de Dieu, tu entendais cette leçon spirituelle et tu passais moins de temps à te justifier pour des trucs qui servent à rien, tu garderais toute ton énergie pour les vrais combats. Oh ! Tu garderais toute ton énergie pour les vrais combats. Et je bénis Dieu parce que Gédéon a eu cette sagesse de dire « Je ne vais pas faire une leçon à Éphraïm, je ne vais pas me justifier, c'est vrai, j'aurais pu espérer ça, 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 je ne vais même pas le leur dire. Je vais mettre un scotch sur ma bouche parce que mon combat, ce n'est pas les frangins, c'est l'armée du diable qui est en face. » Le diable veut te faire perdre des forces pour des autres combats qui servent à rien. Pour que tu te disperses. Pour que tu passes du temps à faire tellement de choses à la fois que tu fais tout mal. Lutte pour les choses qui en vaut la peine. C'est pour ça c'est ce que je disais depuis le début. Hein, quel est mon but ? Quel est mon combat ? Je ne bouge pas de mon combat. Tant que je n'ai pas obtenu la victoire, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Bon, deuxième point. Qui est avec toi dans ce combat ? Gédéon. On ne peut pas faire un combat tout seul. Hein. On a besoin d'avoir des personnes avec nous. Mais qui on amène dans ce combat ? Regardez dans Juges 7. Juges 7, verset 1er. J'espère que l'Éternel est avec vous dans ce combat. Est-ce que tu peux dire Dieu est avec moi dans ce combat? Parce que si ce n'est pas le combat de Dieu que tu es en train de mener, tu vas t'épuiser tout de suite sans résultat. Déjà, sois sûr que le combat que tu mènes, c'est le combat que tu mènes avec Dieu. Avec qui j'y vais? Avec. Mais on est quand même tenté, on est tous tentés, d'essayer de trouver plein de forces naturelles. Alors regardez ce que Dieu fait. Au chapitre 7, au verset 1er, le lendemain matin, donc Yerubaal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec 7 troupes. Avec 7 troupes, avec tous ces hommes, quoi. Ils établirent leur camp près d'Ein Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Avec qui mèneras-tu ce combat ? Qui seront tes appuis ? Quels sont tes appuis ? L'Éternel est mon appui dans ce combat. Il a pris 32 000 hommes. Quand vous lisez le texte un peu plus loin, vous voyez qu'en fait, ils étaient 32 000 hommes. Et Dieu dit, je ne peux pas bosser avec toi si par tes propres forces, tu peux le faire. Je donne pas ma bénédiction. C'est étonnant, ça. Vous avez jamais vu ça? Dieu aime les choses petites pour confondre les choses grandes. Il utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu dit, si jamais tu peux le faire sans moi, je suis pas là-dedans. Vous savez qu'il y a des combats dans lesquels Dieu va vous dire, est-ce que tu es prêt à ce que je t'enlève tes propres appuis humains et tes forces naturelles pour que après le combat, tu n'es pas la tentation d'enlever mon nom dans la liste des vainqueurs. Parce que combien de fois je l'ai fait, moi, à titre personnel ? J'ai commencé le combat en prière et une fois que j'ai eu la victoire, j'ai dit gloire à moi. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Vous avez prié pour un logement, etc. Vous avez déposé le dossier en pleurant, en disant « Seigneur, si c'est toi, je n'oublierai pas ». Et parce que tu as eu ta petite augmentation de salaire, tu as complètement oublié que c'était par la grâce de Dieu que tu l'avais eu. Dieu dit, si tu peux y aller tout seul, je ne suis pas dans l'affaire. si tu peux y aller avec tes forces et tes 32 000 hommes, je ne suis pas dans l'affaire. Moi, je combats avec les moyens de Dieu. Et c'est ce que Gédéon va faire. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que Dieu a le droit de choisir tes proches. Et alors là, il va y avoir de la perte, mes amis. Et là, il y a beaucoup moins de chrétiens motivés. Et je ne sais pas si je vais avoir beaucoup d'amen dans les 5 prochaines minutes. Parce que vous voyez, ça commence très fort. Le verset 3 dit « Fais une proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler ? Qui s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui ? Qui a peur d'y aller ? Rentre à la maison. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, il en resta 10 000. Oh la claque là ! 60% d'un coup. Même plus. Vous savez, entre les personnes qui, un jour, dans une église, disaient « Alléluia Seigneur, je suis touché. Seigneur, je veux te suivre. » Le premier cours de baptême, on est 30. Au dernier cours de baptême, on est 12-13. Parce que quand ils réalisent ce que ça coûte dans le tri par rapport à votre vie, pour vous engager avec Jésus, il y a du monde qui part. Et il y a au moins 60% qui disparaissent. Et je peux vous dire que si jamais tout le monde qui un jour a été touché par Dieu dans une église évangélique était ce matin dans les églises, on pourrait pas rentrer. Hein. Même si le culte était à 4h30 du matin. Alors tu vas devoir faire un tri. Ah, beaucoup font du bruit. Ils sont là, Gédéon, champion, qui veut aller à la mort avec moi ? Écoute, j'avais un programme en fait, jeudi soir ça me convient pas en fait trop la réunion, d'ailleurs le cours de baptême, et puis bon, j'ai un petit peu de... Voilà quoi, mon épouse on attend un bébé, ça va pas être possible, et puis moi j'ai ceci, et puis bon, là le travail, j'ai une augmentation. Ouh ! Je voudrais parler aux femmes dans la salle. Je suis désolé de vous viser ce matin. Mais vous avez ce problème encore plus... Il y a plein de problèmes que les hommes ont que vous n'avez pas, on est d'accord. Hein. Mais là, il y a un problème que vous avez en plus grand que nous. C'est vrai. C'est que vous êtes naturellement dans l'âme plus combattante pour garder des trucs. Au début, c'est très bien parce que ça s'appelle un être formidable qui s'appelle un bébé. Vous avez un côté nourrice dans l'âme. Vous êtes capable de vous attacher et de protéger et d'essayer de sauver des situations impossibles. Alors, ce que vous êtes capable de faire pour garder un bébé dans les moments faciles et dans les moments difficiles, vous êtes capable à endurer des situations de fou. Vous êtes là quand il est malade, vous êtes là quand il pleure, vous êtes là même si vous êtes fatigué. Je rends hommage à ma femme qui s'est levée encore 2 fois cette nuit. Vous avez un côté comme ça où vous êtes instinctive, vous réfléchissez pas, il y a un besoin, j'y vais. La personne, vous y allez. On est d'accord ? Mais le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas que des bébés à vous dans votre vie. Alors quand c'est votre ado qui a 14 ans et qui vous fait la vie, vous êtes capable d'aller le chercher à n'importe quelle heure pour aller le ramener, d'accord ? Mais le jour où il y a un homme un peu tordu dans votre vie, vous allez tout faire pour le garder aussi. Et là, c'est plus pareil. Alors, vous vous battez pour des bonnes causes, mais vous vous battez aussi à fond pour des mauvaises causes. Et c'est là le problème. Et à un moment, Dieu va dire à Gédéon, laisse-les partir. Mais Seigneur, purée, 32 000, quoi ! Tu peux en enlever un peu, Seigneur ? Tu m'as demandé, Seigneur, de faire le travail. Je me suis levé, j'ai fait l'appel, il y a 32 000, pour une fois que l'appel avait marché. Et Dieu dit, j'ai pas besoin de tes 32 000. Est-ce que tu es prêt à ce que je fasse du tri dans ta vie ? Il y a des relations, il y a des proches à toi, je peux pas les garder pour ce combat-là. J'entends plus d'amen, c'était à peu près prévu. Arrête d'imposer ta sélection à Dieu. arrête d'imposer ta sélection à Dieu. Si tu les... Alors, oh, ma TD Jakes, il me parlait parce qu'il me dit, il y a des relations, il y a des personnes que si au tout début, on ne coupe pas, après on n'arrivera plus à s'en débarrasser. Parce qu'après, vous êtes investi tellement affectivement, vous êtes tellement, notamment dans le domaine des sentiments, que tu sois un jeune homme ou une jeune fille, quand tu commences à démarrer une relation, si au début tu le fais pas, plus t'attends, plus c'est dur. Et c'est pour ça que Dieu dit dès le début, allez, 22 000 dehors. Parce que après, quand il sera en face des Madianites, il n'arrivera plus à leur dire de rentrer chez eux. Vous comprenez l'idée? Quand tu verras les 60 000 Madianites en face, ou je sais pas combien ils sont, mais en tout cas, ils remplissent toute la plaine, et que tu vois tes 32 000 hommes, tu n'auras plus le courage de dire, les gars, si vous voulez rentrer. Parce que sinon, tu risques de rentrer avec eux. Et c'est pour ça que Dieu dit dès le début, c'est maintenant, tu coupes maintenant. Je vous en supplie, enfant de Dieu, tant que c'est possible, laisse-les partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Si c'est pas quelqu'un qui va mener le même combat de la foi que toi, laisse-le partir. Laisse-la partir. Oui, mais Seigneur, tu sais que je... Est-ce que c'est pas toi qui as permis qu'il fasse partie des 32 000 qui sont venus m'aider au départ? Je lui ai proposé un choix. Ces 22 000 personnes ont entendu mon appel, ont été touchées par mon appel, mais ne se sont pas engagées à mon appel. Voyez, je suis désolé de vous dire quelque chose de difficile, mais c'est pas parce que votre petit chéri, votre petite chérie a été touchée un jour par l'évangile qu'elle va s'engager avec Dieu dans les eaux du baptême. Je ne peux pas, écoute bien, notamment les femmes dans ce lieu, je ne peux pas brûler mes forces à maintenir des relations, des proches, une situation avec quelqu'un qui ne veut pas aller au combat avec moi. Je voudrais, mais il est libre, elle est libre de partir. Et c'est pareil quand votre enfant a grandi, qu'il a plus de 18 ans, etc. Il y a un moment où c'est un crève-cœur pour les mamans et je ne peux même pas comprendre ce que vous ressentez. Mais il y a des fois où vous avez fait tout votre possible pour votre chéri. Il ne veut pas marcher avec Dieu. Vous ne brûlez pas la santé. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez proposé l'appel de Dieu. Cette personne a été touchée un jour. Cette personne est repartie en arrière. Ne perds pas ton énergie. Ne brûle pas tes larmes, ne détruis pas ta vie. Occupe-toi aussi de ceux qui marchent. Parce que sinon, on a tous le syndrome de l'infirmière. On va passer notre temps à prendre soin que du malade et on va oublier ceux qui sont sains et qui vont devenir malades dans ce cas-là. Oh là là, combien de temps il me reste? Plus beaucoup de temps. Alors vous allez me dire, mais comment je fais le tri, Seigneur? Bah Dieu, il fait le tri si tu le fais pas. Si tu es honnête, et peut-être ce matin, je fais partie de ce tri que Dieu te demande, bah Gédéon, il a 10 000. Allez, avec ces 35% qui restent, là, il arrive devant un endroit où ils peuvent boire, un torrent. Verset 4, mais l'Éternel dit à Gédéon, ces troupes, donc les troupes, sont encore trop nombreuses. Seigneur, tu m'as fait virer 22 000. Fais-les descendre au bord du torrent, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux que je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec leur langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau avec leurs mains que je délivrerai des Madianites en vous donnant leur victoire, la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Il va perdre 9700 hommes pour cette histoire d'eau. Je ne sais pas si vous avez compris, mais 9700 hommes, il va garder 3%. il va garder 3%. Seigneur. 1% par rapport au départ et 3% sur ceux qui restaient. J'avais pas compris cette histoire. Moi, à l'école du dimanche, quand on me l'a expliqué la première fois, apparemment, ma mono n'avait pas plus d'explication que moi. J'ai pas compris cette histoire de l'appello avec la... Pourquoi ? C'est quoi cette sélection arbitraire ? Enfin, je me suis dit, oh, bah, c'est un petit peu aléatoire, cette histoire. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai voulu aller voler une croquette de mon chien, c'était une demoiselle, Lassie, de son prénom, Collet. Et j'ai voulu aller goûter une de ces croquettes, enfin tester, un peu regarder ce qu'il y avait dedans. Là, vous savez, je voulais la mettre dans ma main, regarde, tu vois, c'est quoi ? J'ai approché ma main de la croquette, enfin de la petite gamelle, quoi, de Lassie. Et ma charmante Lassie, une douceur, une chienne d'une douceur, j'ai approché ma main, j'entends. Je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que t'as Lassie, t'as un problème ? Enfin, comme si elle pouvait me répondre, vous voyez un petit peu. Mais je réessaye. Vous savez pourquoi ? Parce que les chiens, ils font, ils lapent. Que ce soit de l'eau ou des croquettes. Et les deux yeux. Ils restent actifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Un chien, alors qu'il est en train de boire, il regarde à droite, à gauche, s'il y a quelqu'un qui va lui piquer quelque chose. Parce que vous voyez, il est actif dans le combat. Et pourquoi Dieu permet ce test ? Parce que Dieu dit, je vais garder ceux qui... Bien sûr, vous avez tous soif. Les 10 000 hommes ont soif. Les 10 000 hommes veulent boire. Mais il y a seulement 300 qui sont prêts à dire, le combat et garder la vision est plus important que la soif. Donc on garde les yeux ouverts pendant qu'on boit. Les autres, ils sont là. Ah, je me repose, je fais tomber la veste, tranquillement. Et ceux-là, tu ne les gardes pas. Ils pensent à leur bide, là. Ils pensent à leur soif, tu ne les gardes pas. Je veux 300 qui gardent la vision pendant qu'ils boivent. C'est trop dangereux de t'engager dans la vie avec quelqu'un qui ne garde pas la vision. C'est trop dangereux de t'engager dans la vie avec quelqu'un qui ne garde pas la vision. Je tourne la page et je termine avec un dernier point. On a vu, pour tenir, il faut savoir quel est le but. Parce que sinon, au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on combat, on se disperse, on perd des forces, etc. Notre problème, c'est avec qui on combat et qui j'amène. C'est l'Éternel et attention aux personnes avec qui tu t'engages. Troisièmement, c'est avec quoi tu vas au combat. Concrètement, quelles sont tes armes ? Bon, bah, l'armée de Gédéon, excusez-moi de vous dire, mais il a presque tout perdu. Hein. Il reste 3%. 3% de... Vous voyez, c'est un peu comme le raid, quoi. C'est l'élite de l'armée. Il prend l'élite de l'élite, ceux qui sont affamés de Dieu et qui veulent aller jusqu'au bout. Vous savez quelles armes Dieu lui demande de prendre ? Est-ce que certains connaissent le texte ? Vous savez quelles armes ? Regardez le verset 16. Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes, comme s'il pouvait se permettre en plus de les diviser. Ça part aussi mal que les films d'horreur. Vous savez, les films d'horreur, des fois, ils sont 3 dans une maison hantée, et puis ils disent, allez, chacun de nous va aller de son côté. Que ça, tous ont beaucoup plus peur. Dans la vraie vie, on fait jamais ça. Quand on est très peu, il faut rester groupé. Mais vous voyez, comme si Dieu, jusqu'au bout, dit, c'est moi qui vais le faire. Alors, t'as pas à craindre, parce que c'est moi qui vais le faire. Alors 100, 100, 100, et tu leur donnes quoi ? Alors un bazooka, l'autre c'est un M16, et l'autre c'est un... Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. À chaque soldat, un corps, une trompette. Une trompette. Super. Une cruche, vide. Vide. Qui a rien dedans. Même pas un petit pistolet caché, rien. Dans laquelle fut mise une torche, dernière chose, cachée dans la cruche, une torche allumée. Et il dit, vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'aux abords du camp et quand j'y serai, vous n'aurez qu'à m'imiter. Je sonnerai du cor avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du cor tout autour du camp et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils vont au combat. Alors regardez, regardez. Moi, si j'ai une cruche, pardon, une trompette, enfin un cor, une cruche et une torche, je dis Seigneur, c'est la cata! Et Dieu dit, c'est exactement ce qu'il faut. Pense un peu à ta vie. Ce matin, peut-être, avant de venir à l'église, tu regardes ce que tu as avec toi. Seigneur, mes finances, c'est la cata. Mon appart, il est trop petit. Ma famille, ça va pas bien. Seigneur, c'est la cata. C'est exactement ce qu'il faut. Avec trois fois rien, mais une armée de personnes qui en veulent pour Dieu, je ferai le miracle. Tu regardes ta vie, tu fais les comptes. Seigneur, les comptes sont pas bons. Avec des comptes pas bons, mais une personne qui en veut pour Dieu, laisse-moi faire le miracle. Laisse-moi faire le miracle. Alors on peut chercher, on peut dire qu'est-ce qu'il y a. Moi, je veux pas développer, le temps à passer, mais la trompette pour moi c'est la louange. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas des révélations de Dieu, mais pour moi c'est dire alléluia, gloire à Dieu. J'ai besoin de me mettre mon CD de louange un petit peu pour gagner le combat. Parce que si j'y vais déjà en déprimant. Mais pouvoir chanter à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Avec un peu de louange. C'est comme ça qu'on commence le combat. Vous allez me dire une cruche vide. Vous voyez, moi, la cruche vide. À l'intérieur, il y a une petite flamme, hein, d'accord. Moi, je me dis, c'est pour ne pas faire le malin et pour pas être orgueilleux. Vous voyez, des fois, il y a des chrétiens. Je pense que c'est pour ça que des chrétiens, ils se plantent dans certains combats, parce qu'ils arrivent avec beaucoup de trucs qui brillent. Et Dieu dit, non, non, mets de l'humilité. Ne fais pas la pub de tes dons et de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est va au combat avec humilité, ne sois pas visible. Pourquoi il a mis une cruche? C'est pour pas que les ennemis le voient de loin, on est d'accord? Sinon, les ennemis auraient vu arriver. Voilà les chrétiens qui arrivent en disant « Ah, tu vas voir ma sœur, moi je vais t'expliquer, c'est des années de conversion, moi je tiens bon, je suis solide. Moi j'ai réussi ma famille, moi mes enfants c'est nickel, moi mon mariage. Il... » T'as réussi tout ça, dis donc. Alléluia. Je me méfie de personnes qui vont au combat avec plus de décoration. Vous savez, en général, quand les gens viennent avec des décorations, qui c'est qu'on essaye de, pardonnez-moi l'expression, hein, mais de flinguer en premier sur le champ de bataille? Le chef. Donc il faut vraiment être bête pour aller devant le diable en disant « Je suis un super champion international de la meilleure église du monde. » Il dit « Mettez une cruche autour de vous. Soyez simple, soyez humble. Mais par contre, à l'intérieur, mettez le feu. À l'intérieur, mettez l'Esprit de Dieu. Allez-y, soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, mais priez pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Soyez remplis de feu, parce que c'est pour ça que vous irez jusqu'au bout. » Et vous voyez, le diable ne s'attend pas à une attaque comme ça. Et la surprise, elle est pour vous. Oh! Dieu veut, oh, je termine. Dieu veut te faire une réputation plus grande que ce que tu as. Vous savez, c'est pour ça que la victoire, elle est à l'Éternel. Quand on a eu ce lieu, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'en parlais avec le pasteur Paul Calzada hier. Je lui ai dit, j'ai pensé comme ça m'a percuté. À la mairie, vous savez pas quoi, ils croyaient qu'on était riche. Ils croyaient qu'on était riche. Ils m'ont dit, dis donc, vous pouvez vous acheter la NPE. Et moi, j'y allais avec une cruche, mes amis. Hein. S'ils avaient vu ce qu'on avait. Oh. Je sais pas s'ils se sont dit, vous savez, c'était un peu des enchères. Il suffisait qu'ils montent un tout petit peu plus que nous, on était perdus. Moi, j'ai mis le prix limite dès le début. Quand j'ai proposé le prix d'achat, j'ai mis 790, mais on avait 790 000, mais on avait raclé tous les centimes qu'on avait dans la tirelire. Hein. Il y avait zéro marge. J'ai mis tapis dès le premier moment. Parce que soit c'est pour l'éternel, soit ça l'est pas. Et la mairie, ils sont dit, ils sont riches, dis donc. C'est ces évangéliques-là, ils ont de l'argent. L'argent qui doit venir des USA ou de quelque part, on n'a rien eu, mes amis. On n'avait rien. On n'avait rien. Et quand je pense à la banque, elle a prêté 660 000 euros à une association qui avait 3 ans. Mais vous réalisez un petit peu. Et si avec ça, on dit, gloire à nous, c'est par nos forces qu'on a eu le bâtiment, ben on est des rigolos. On sait que c'est l'éternel qui l'a fait. Trouvez-moi une banque qui est capable de prêter 660 000 à des genoux de 3 ans. Essayez d'emprunter 660 000 avec un CDD de 3 ans. Vous allez voir. Vous n'allez pas voir surtout. Vous comprenez l'idée? Et c'est comme ça que Dieu l'a fait. Dieu dit, si vous pouviez le faire, je ne vous le ferai pas. Mais puisque vous ne pouvez vraiment pas le faire, je vais vous le faire. Alléluia. On va fermer les yeux ensemble, on va prier à Dieu parce qu'il faut tenir le combat, mes amis. Je voudrais vous encourager ce matin. Tenez le combat. C'est plus facile de commencer que de finir. La Bible dit, malgré la fatigue, il continuait. Il continuait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à persévérer pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à persévérer, à t'accrocher, à dire, Seigneur, ce combat, c'est au nom de l'Éternel que je le mène. Repense à ce combat que tu as dans ta vie. Pars pas dans tous les sens. Quelle est ta prière? Quel est ton combat? Que tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est difficile, mais je veux tenir bon. Je veux garder le combat de la foi. Peut-être c'est par rapport à ta santé. Dis, Seigneur, je veux garder la foi malgré la maladie. Seigneur, je veux garder vraiment mon mariage que tu protèges de toute tentation du divorce. Seigneur, je veux m'accrocher parce que je crois qu'aujourd'hui, tu veux me faire triompher dans ce combat. Alléluia. On ferme les yeux ensemble.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh oui, oh oui. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Tu lui appartiens, mon frère.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Persévère. Parle à ton cœur et dis à ton âme, persévère. Persévère.
Persévère.
Seigneur, donne-moi la force.
Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplit.
Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu? Peut-être t'as pas grand-chose dans les mains. Tu dis, Seigneur, c'est tellement peu de moyens. Mais Seigneur, je te prie parce que ce combat, c'est le tien. Seigneur, tu connais mon combat. Donne-moi la force de persévérer. Alléluia. Pendant que Olivier continue à grande gloire à Dieu, commence à prier à ta place. Est-ce que je peux avoir des intercesseurs qui sont prêts à dire, le combat n'est pas fini? Alléluia! Alléluia! Commence à crier à Dieu à ta place. Commence à dire Seigneur Jésus. Alléluia! Seigneur Jésus, tu entends les prières secrètes qui montent de ce lieu. Tu vois les combats, Seigneur, qui sont là présentés à toi ce matin. Seigneur, prends dans nos mains, Seigneur. Remplis-nous de feu, d'humilité, Seigneur, et de louange. Remplis-nous de louange, d'humilité, de feu, Seigneur. Oh mon Jésus,
je te confie mes rêves.
Seigneur Jésus, alléluia Jésus,
je confie mes combats.
Oh mon Jésus,
malgré le doute et la fatigue,
alléluia,
je ne me rendrai pas.
Alléluia.
Je te confie mes doutes, je te confie mes combats, je te confie mes incertitudes, je ne me rendrai pas. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, Seigneur,
l'existe.
La chose existe.
Alléluia, Jésus.
Son regard est sur moi, car je t'appartiens.
On va terminer en disant persévère tous ensemble.
Persévère. Persévère. Persévère, persévère, car ta parole, elle s'accomplit, certainement, oui, elle s'accomplira, quoi qu'il arrivera, elle s'accomplira.
Alléluia, Jésus.
Oh oui, mon rêve s'accomplira.
Amen. Alléluia. Alléluia. Gardez-le dans votre cœur. Parce que le diable veut manger votre vision, veut vous décourager au combat, veut vous envoyer des personnes qui vont dire tu tiendras pas. Pourquoi t'as pas fait ça comme ça ou pas comme si? Tenez bon les Gédéons, tenez bon. Avec trois fois rien, si Dieu est avec vous, on va jusqu'au bout. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places et je vais laisser Jessica. Alors vous avez reconnu Olivier Chewa comme derrière moi. C'est parce que ce soir il sera en concert ici à l'église. Et vraiment, on est bénis. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien. Un grand merci, Olivier. On va terminer d'ailleurs avec, voilà, juste avec toi pour les offrandes tout à l'heure. Jessica, si tu veux bien.
Bonjour. Alors, le culte touche à sa fin et nous allons passer par quelques petites annonces et ensuite les offrandes. Donc, si les frères peuvent se préparer pour après les annonces. Donc, aujourd'hui, nous avons donc l'Assemblée Générale de l'Association Culturelle. Et pour cela, j'invite Christiane, la présidente de l'association, à venir.
Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, nous avons notre Assemblée Générale aujourd'hui à 13h15. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont pensé déjà à nous verser leurs cotisations. Grand merci. Vous savez que l'association culturelle s'occupe de l'ensemble des activités de l'église, que ce soit pour les enfants, les femmes, les hommes. Voilà, donc on compte beaucoup sur votre soutien. Donc il y aura encore la possibilité entre les deux cultes, là, à partir de tout à l'heure, de verser cette cotisation. Alors, pour tous ceux qui l'ont fait, si vous pensez que vous ne serez pas là à 13h15, s'il vous plaît, pensez à prendre une procuration, à la compléter et à la remettre donc à la personne de votre choix. Mais bien sûr, ce sera avec grand plaisir que je vous verrai tout à l'heure.
C'est bon.
Donc, également, aujourd'hui, à 14h45, je donne rendez-vous à tous les motivés pour le foot. Voilà, donc l'entraînement intensif reprend. 14h45, en bas avec vos tenues. Comme Yvan l'a dit, donc à 18h, nous aurons le privilège d'avoir un concert avec Olivier Chewa. Donc ce soir, à 18h, rendez-vous au Culte Concept. Voilà. Ensuite, inviter des amis, c'est un concert gratuit. Ensuite, cette semaine, ce jeudi, à 20h, nous avons notre réunion spéciale convivialité à laquelle vous êtes tous conviés. Donc ça sera spécialité asiatique. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à venir nous rejoindre ce jeudi pour qu'on passe un temps ensemble autour de choses succulentes et délicieuses.